Au quotidien, avec Hélène Denis.
On s'hydrate bien et on y va. Oui, une bonne gorgée d'eau avant de vous dire bonjour. 21 avril, c'est mardi aujourd'hui. Et puis, la semaine s'annonce quand même assez agréable. Ensoleillée jusqu'à au moins dimanche et de plus en plus chaude si on se concentre sur les températures. Aujourd'hui, ça prend une petite laine, comme dirait l'autre. Est-ce que vous êtes bien habillé, Mathieu, là, parce que je sais que vous marchez quand même de longues minutes pour venir au travail.
Oui, j'ai mis mes bas en mérino.
Ah oui?
Ben oui.
Ben c'est bien ça, ils sont chauds puis ça pique pas.
Non, et c'est ouais. Tellement confortable.
On dit mérino ou mérinos?
Moi, je dis mérino.
On dit porter ou porter?
Je ne porte qu'un bas. Alors, si j'en portais deux, je dirais mérinos.
Oh, l'humoriste Mathieu Tessier. J'allais dire le coquin, mais c'est pas la bonne affaire, le bon mot pour vous qualifier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? La chronique livre avec Anne-Marie Aubin qui va nous parler de deux livres qui ont rapport au sport. Également, la pièce de théâtre Le Testament des célébrités prend l'affiche aujourd'hui même, 21 avril, et la comédienne Rebecca Vachon. Je ne sais pas si vous suivez la série Le Retour d'Anna Broder. Elle joue le rôle de Mia et on ne l'aime pas là-dedans. Elle est parfaite dans son rôle. J'ai bien hâte de la rencontrer. Elle, qu'on a vue aussi dans Indéfendable, notamment, et Les Pays d'en haut. On aura également la chronique économie avec Michel Poitevin. Aujourd'hui, Michel s'attarde à l'inflation et aussi à la transformation pas simple de Poste Canada. Également la chronique du 43e défi sportif Altergo avec Émilie Bouchard, la bonté, qui est la directrice générale adjointe d'Altergo. Ça s'en vient, le défi s'ouvre jeudi 23 avril. Et on commence avec un souvenir. Ah oui, d'ailleurs, on va entendre la chanson du défi sportif Altergo et vous essaierez de deviner la voix. Mathieu, vous l'avez deviné, moi, j'étais pas sûre. Alors, on va l'entendre juste avant la chronique d'Émilie, mais pour tout de suite, voici Corneille.
Dis-moi donc, c'est quoi ton histoire? Que je te dise la mienne. Je veux pas savoir qui tu pries, mais plus pourquoi. Est-ce pour ma paix ou pour la tienne? Et si tu veux, on peut même aller plus loin. S'avouer nos petits caprices. C'est peut-être le même, je vois un sourire au coin. Tu vois, t'as l'air moins triste. Tu l'as déjà dit. Mais si tu veux mon avis, aujourd'hui on dit beaucoup plus qu'on ne vit. Et tu le sais. Toi et moi, on peut faire ensemble. Toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble.
Thank you.
ensemble, Corneille. C'est vrai qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. La 52e édition de la Semaine de l'Action bénévole se tient depuis le 19 avril et se poursuit jusqu'au 25 avril. Le thème, cette année, Mission bénévole. Et cette semaine vise à promouvoir le bénévolat et à reconnaître les millions de bénévoles qui s'impliquent chaque année dans leur communauté partout au Québec. À l'occasion de cette édition, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec est très fière de compter sur l'ingénieur spatial Farah Alibé. À titre d'ambassadrice, Farah Alibé est reconnue pour son parcours inspirant et son engagement envers la collectivité et son rôle mobilisateur auprès du public. La Fédération souhaite mettre de l'avant le bénévolat comme une véritable mission collective, un mouvement porté par des milliers de personnes qui contribuent à transformer leur communauté. Merci donc à tous les bénévoles, particulièrement les bénévoles de Vues et Voix de Canalem, qui sont des personnes de très grande qualité, qui sont dévouées et agréables à côtoyer. Allons-y avec les unes des journaux maintenant, à la une du Devoir. On parle des invités du PSTQ pourraient devoir quitter le Québec. Alors, je vous explique. C'est un texte de Lisa Marie Gervais. Sans nouvelles de leur dossier depuis plus de 6 mois, des heureux élus du programme de sélection des travailleurs qualifiés, donc le PSTQ, craignent de devoir retourner dans leur pays alors que leur permis de travail est sur le point d'expirer. À peine 110 certificats de sélection du Québec, qu'on appelle aussi CSQ, ont été délivrés alors que plus de 10 000 invitations ont été envoyées depuis juillet dernier selon des données du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI. En attente de son CSQ, donc de son certificat de sélection du Québec, depuis bientôt 7 mois, Erwan Sauvage angoisse à l'idée de voir approcher dangereusement la date d'expiration de son permis de travail post-diplôme. Un permis ouvert. Le 4 mai, je perds mon emploi et je dispose de 90 jours pour quitter le territoire canadien, ma copine, mes amis, mon chat, ma vie. Au Québec, depuis 5 ans, ce Français d'origine a d'abord terminé une maîtrise à Polytechnique Montréal en génie biomédical avant de décrocher un poste à l'hôpital du Sacré-Cœur. Voyant que le programme de l'expérience québécoise, le PEC, était suspendu, il s'était tourné vers le PSTQ et a été sélectionné en août dernier lors des premières rondes d'invitation du MIFI. Près de 7 mois plus tard, il a déposé son dossier complet le 1er octobre. Il ne comprend pas pourquoi, si près du but, il se pourrait que la résidence permanente lui échappe. Comment se fait-il que même les chanceux qui, comme moi, ont été acceptés dans le PSTQ se voient maintenant dans l'obligation d'envisager sérieusement de tout abandonner en raison de délais de traitement trop longs, demande le jeune homme, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en proie à un grand stress. C'est que le MIFI s'engageait à traiter dans les 6 mois le CSQ, engagement qui a pris fin en 2024. À la mi-février, le Devoir révélait que moins de 5 CSQ avaient été délivrés dans le cadre du PSTQ. Un mois plus tard, à la mi-mars, c'était 39. D'après les explications du MIFI, on comprend qu'il y a un goulot d'étranglement puisqu'il met aussi ses efforts à finaliser ceux du PEQ, du PRTQ et des programmes pilotes. Sans vouloir communiquer de délai moyen de délivrance de CSQ, le ministère affirme toutefois travailler activement à renforcer sa capacité de traitement des dossiers déposés dans le cadre du PSTQ, en espérant que tout cela débloque. Toujours à la une du Devoir, élever un soldat ou la militarisation croissante des enfants en Arménie. Les récents changements sociaux, culturels, politiques et économiques, ainsi que la guerre, les affrontements frontaliers et le conflit du Haut-Karabakh ont eu des répercussions considérables sur la qualité de vie des enfants et des jeunes. Par conséquent, la jeunesse arménienne se retrouve dans les camps d'entraînement militaire et sur la photo à la une du Devoir, un jeune homme brandit une arme factice. Cartographie du souvenir, le bédéiste Guy Delisle recevra le prix Avenir et Société au Festival Métropolis Bleu en marge de la parution de son album L'Occupation des sols, inspiré d'une nouvelle de Jean Eschenoz. À la une de la presse plus maintenant, sale printemps, les rues de Montréal tardent à être nettoyées malgré les promesses et ce n'est pas beau à voir. Record de recrutement, ça roule fort pour l'armée. Également en sport, l'antichambre à la sauce poids, le faux balado sportif Palais Hockey fait rire pour vrai. Et Patrick Lagacé, lui, parle du CH, le CH qui n'est plus plate, et c'est vrai. Et un match ce soir, n'est-ce pas? Gatineau, l'eau et la tension montent. Les crues printanières ont causé des inondations dans une trentaine de secteurs lundi aux quatre coins du Québec. La presse s'est rendue à Gatineau où la rivière des Outaouais est sortie de son lit sous le regard des riverains, tantôt inquiets, tantôt résignés. Et finalement, à la une du Journal de Montréal, sondage léger, le PQ loin devant s'il oublie son projet de référendum pour 4 ans. 39 % vote total, 47 % vote francophone, intention de vote provinciale, 31 % pour le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, une baisse de 1 % par rapport au mois de, à l'année, au 12 avril 2026, 28 % pour le Parti libéral du Québec de Charles Milliard, c'est une baisse de 5 %, 17 % pour la CAQ de Christine Fréchette, une augmentation de 4 %. Et puis, Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, 14 %, augmentation de 2 %. Et Québec solidaire reste stable à 8 % des intentions de vote provinciales. Toujours solide avec un peu moins du tiers des intentions de vote, le chef péquiste parviendrait malgré tout à former le gouvernement, entre autres grâce à la division du vote entre les différents partis fédéralistes. Le portrait serait toutefois complètement différent si le PQ décidait de renoncer à sa promesse de tenir un référendum sur la souveraineté d'ici 4 ans. Le cas échéant, les appuis envers le Parti québécois grimperaient de 8 points, lui assurant une confortable majorité. Défi! Défi! Défi sportif! Défi!
Un pas de plus, la vie se passe en avant. Un premier geste, c'est ça qui compte et pas le reste. Un premier mot, premier regard, la vie s'en va quelque part. Un premier cri, premier bonheur. Jusqu'au bout, lance plus fort, roule plus vite. C'est avec ta vie que tu joues.
Défi, défi, défi sportif, défi, 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 défi
Il y en a de l'énergie là-dedans. C'est l'hymne du défi sportif Altergo interprété par, vous l'aurez sans doute reconnu, la voix de Judy Richards, qui a été longtemps associée au défi sportif Altergo avec son mari, l'excellent humoriste et homme de toutes les qualités, Yvon Deschamps. Alors, c'est jeudi qui vient, que l'événement, le défi sportif Altergo, s'ouvre, un événement majeur du sport adapté, un grand rendez-vous humain, inclusif, inspirant, très attendu par des milliers d'athlètes partout au Québec et même à l'international. L'excitation doit être palpable du côté de l'équipe organisatrice. Et on accueille Émilie Bouchard-Labonté, directrice générale adjointe du défi sportif Altergo, pour nous en parler. Bonjour, Émilie.
Bonjour, Hélène. Merci encore pour cette invitation. Puis là, ça me met dedans, là, cette musique-là.
C'est sûr. Alors, Émilie, on est à la veille du coup d'envoi. Comment vont les derniers préparatifs?
On entre vraiment dans le moment le plus intense, là, je vous dirais, mais aussi le plus exaltant, parce que les sites sont pratiquement prêts, les équipes techniques commencent à être en place, les bénévoles commencent à arriver, sont formés, mobilisés. Puis cette fébrilité-là qu'on ressent juste avant le début, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, les derniers horaires se confirment, puis là, les athlètes vont commencer à arriver. Donc là, tout ça est excitant, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de fierté rendue là, aussi près de la ligne de départ. Là.
On sent vraiment, Émilie, que c'est pas qu'un événement sportif, là, c'est toute une machine humaine qui se met en branle.
Exactement, parce que derrière chaque compétition, il y a les athlètes, il y a des entraîneurs, il y a des familles, il y a des bénévoles. Là, on met ça dans 15 sports, 5 sites de compétition, des compétitions scolaires, nationales, provinciales, internationales. Donc, c'est sûr que ça demande une logistique immense, mais aussi ce qui rend le défi sportif Altergo aussi spécial.
Alors, on entre dans le vif du sujet. Jeudi 23 avril 2026, ça commence sport. Fort et sport avec le mini-marathon.
Oui, ça commence fort avec du sport parce qu'on attend au Parc Jarry plus de 1200 athlètes provenant de près d'une quarantaine d'établissements scolaires. Les jeunes athlètes vont prendre part à des courses de 500 mètres, 1 km, 3 km, aide à la mobilité ou non, incluse là-dedans selon leur capacité.
C'est vraiment, vraiment énorme là, comme participation.
Exactement,
1200.
C'est tellement beau à voir sur la ligne de départ, surtout l'énergie, la fébrilité, la nervosité de ces athlètes-là parce que pour plusieurs jeunes, ça va être leur première expérience de compétition, parfois une première ligne de départ. Donc, c'est toujours une journée vraiment festive, remplie de sourires. Souvent, on voit des accompagnateurs puis des parents pas mal émus là, sur les bords du parcours. Puis nous, on se rend... C'est là, à ce moment-là, qu'on réalise pour la première fois que notre job est fait.
Alors, ça se déroule au Parc Jarry. Après ce lancement rassembleur, ça, c'est sûr, vendredi, on continue.
On continue avec une autre journée très chargée vendredi, puis très excitante. D'abord, on va débuter avec la compétition scolaire de boccia, qui va encore permettre à de nombreux jeunes de découvrir ce sport de précision et de stratégie. Et c'est vraiment intéressant pour ce volet-là, parce que le matin, ça va être les élèves du niveau scolaire qui vont participer à la compétition de boccia. Et tout de suite après, le boccia national va embarquer. Donc, on va vraiment avoir autant l'élite que la relève va vraiment se côtoyer là, cette journée-là. Donc, pour nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir égayer les yeux de ces jeunes athlètes-là qui peuvent voir qu'est-ce qu'ils peuvent devenir par la suite.
Ah oui, donc on passe tranquillement des jeunes aux athlètes de haut niveau.
Exactement. Puis c'est vraiment l'une des forces du défi sportif Altergo de voir ça dans cette même journée-là. Ce qu'on va voir aussi au championnat canadien féminin de rugby en fauteuil roulant, le boccia national par hockey junior. Donc ça va être tout plein d'occasions à partir de vendredi là, de voir cette action-là.
Vendredi 24 avril et le week-end arrive avec encore plus d'actions.
Exactement. Tous ces sports-là seront encore présents et on rajoute la très attendue classique Chantal Petitclerc en paraathlétisme qui va se dérouler du côté du complexe sportif Claude Robillard ce samedi.
Un nom qui veut dire beaucoup au Québec.
Absolument. Puis Hélène, je ne peux pas dire à quel point on est très choyés, très fiers de savoir que Chantal, c'est une de nos porte-paroles depuis si longtemps puis qu'en plus, elle a accepté de donner son nom à cette compétition. J'ai hâte de voir les athlètes en action sur les épreuves de course et de lancer. Donc, tout ça, samedi, là, ça va être très excitant.
Et on pourrait penser que ça ralentit après le week-end, mais pas du tout.
Pas du tout, non.
Pour
ceux qui ne sont pas disponibles là, pour venir jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, à partir de lundi, ça va encore être encore plus intense. Donc, notre volet scolaire va battre son plein avec plus de 1000 jeunes par jour qui vont être au complexe sportif Claude Robillard pour plusieurs compétitions, natation, basket, volley, athlétisme. Donc, il va vraiment en avoir pour tous les goûts.
Donc, c'est littéralement des milliers de jeunes qui passent par le défi sportif.
Oui, puis pour nous, c'est vraiment fondamental. Ça va permettre aux jeunes de vivre une expérience sportive inclusive, surtout souvent marquante. J'en parlais un peu tout à l'heure. Ça va changer leur regard sur leur capacité, mais aussi sur leur sport. Tout devient possible. C'est notre slogan. Oui. Je l'ai répété quelques reprises en venant à votre émission, Hélène, mais c'est vraiment ça. Et en parallèle, on va accueillir le championnat canadien de curling en fauteuil roulant à Boucherville qui démarre dès lundi aussi. Ça va être encore une compétition très relevée. Et un autre événement d'envergure internationale qui commence aussi ce lundi, la Coupe du monde de World Boccia. À ce moment-là, on va recevoir des athlètes de calibre mondial de 22 pays. C'est vraiment extrêmement, je trouve, prestigieux pour Montréal puis le défi sportif Altango.
C'est sûr. Et pour le dernier week-end, vous ajoutez des compétitions à la programmation.
La programmation s'intensifie encore comme c'était possible, mais oui, ça l'est, tout est possible. Donc, on termine avec des tournois de balle molle et de pickleball pour les personnes sourdes le week-end prochain, samedi prochain en fait, pas ce samedi, mais le 2 mai. Puis nos traditionnels tournois de parachute soccer et de basketball en fauteuil roulant qui auront lieu, eux, du côté du cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Pour ce qui est balle molle et pickleball pour les personnes sourdes, ça va être du côté du complexe sportif Claude-Rebiard. Des athlètes en fauteuil roulant pour le power chair soccer, le basketball. Pour la balle molle, pickleball, c'est des personnes sourdes, comme je vous le disais. C'était important pour nous de représenter les différentes communautés, les différentes réalités à travers les présentations de nos sports. Donc, ces tournois-là vont compléter le défi de façon très rassembleuse et très festive.
Émilie, quand on entend tout ça, là, on réalise l'ampleur de l'événement et tout le travail qui est fait en amont.
On le disait un peu, Hélène, le défi sportif, Altargo, ce n'est pas juste une compétition, c'est vraiment un mouvement, un lieu de rencontre, de fierté, d'inclusion. Puis c'est vraiment tout ça qui est incarné par le défi sportif Altargo et les projets d'Altargo, événements et d'Altargo en général. Pour le défi sportif Altargo, c'est vraiment un événement qui transforme les gens, autant les athlètes, les spectateurs, les bénévoles. Donc, on est vraiment très fiers de cette cuvée-là de 2026.
Alors, il ne reste qu'à vous souhaiter beaucoup, beaucoup de monde à la messe, de nombreux spectateurs et une météo coopérative.
Oui, ça serait le temps de mettre nos chapelets sur la corde à linge, car on aimerait bien ça du beau temps. Par le passé, ça a été des fois un peu laborieux. Donc, j'invite tous les auditeurs là, à Canal M de nous donner un petit coup de main là-dessus puis nous envoyer des ondes positives afin qu'on puisse se présenter nos compétitions extérieures de la meilleure des façons et de le plus confortable possible pour nos athlètes et tout leur encadrement.
Un grand merci, Émilie. On vous souhaite un excellent défi sportif Altergo. On rappelle que c'est le 43e. Et on va se retrouver, nous, en studio le 5 mai pour en faire un bilan. Et moi, j'y serai lundi pour participer au Centre Claude-Rebiard. Là, j'ai bien hâte de vivre ça de l'intérieur.
J'ai tellement hâte de vous accueillir, Hélène. Ça va être un plaisir.
Merci.
Merci.
J'adore cette musique. Vous avez peut-être reconnu le thème du film Les Aventures de Rabbi Jacob, musique du compositeur Vladimir Kosma. Et j'ai essayé d'avoir ce thème comme sonnerie de cellulaire. Je n'y suis pas arrivée. Et c'est pas parce que je suis techno-nouille, là. C'est parce que ça fonctionnait pas, là. J'ai un autre thème. Mais je suis allée voir Frère chez Duceppe, au théâtre Duceppe. Et il y a un des personnages qui a une sonnerie de cellulaire. J'étais jalouse. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est le thème que vous entendez présentement. Et Frère de Nathalie Doumard est à l'affiche chez Duceppe. Courez voir cette pièce qui est vraiment extraordinaire. On rit autant qu'on pleure. C'est tellement bon. Je ne sais pas si vous aviez vu Maman de Nathalie Doumard. C'est dans le même esprit. C'est la famille qui se réunit au chalet, que des hommes qui parlent entre eux, frères, beaux-frères, amis. Et c'est délicieux comme pièce. On se retrouve avec Michel Poitvin pour la chronique économie dans les prochaines secondes.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
La chanson « Aucune fleur » de Soleil secret.
C'est le moment de parler économie avec Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Hier matin, Statistique Canada a publié les nouvelles données de l'inflation au pays.
Oui, on était curieux de voir ce qui se passerait avec la guerre en Iran. Là, puis on sait que le prix de l'essence a augmenté. Ça s'est répercuté effectivement dans les chiffres d'inflation pour le mois de mars sur une base annuelle, donc de mars 25 à mars 2026. En février, on était à 1,8%. Là, on a bondi à 2,4%. C'est quand même une bonne hausse pour le Canada. Au Québec, la hausse était plus modérée, mais on a quand même une inflation un peu plus élevée, là, 2,9%, toujours sur une base annuelle. C'est la guerre en Iran qui a fait bondir les coûts de l'énergie, notamment de l'essence à la pompe, là, puis on en a parlé dans les dernières semaines. En mars, seulement pour le mois de mars au Canada, le prix de l'essence a augmenté de 21% sur une base annuelle de 5,9%. Donc, c'est assez significatif. Et puis, évidemment, cette hausse du prix de l'essence, ben, ça se répercute dans les chiffres d'inflation, là, notre 2,4% d'inflation générale. Mm-hmm. Si on excluait l'énergie, l'essence de l'indice de l'inflation pour voir comment les autres prix ont bougé là, dans le depuis un an, mais l'indice est à 2,2% versus 2,4% lorsqu'on inclut l'essence. Donc, c'est un peu plus faible. Puis là, ce qu'on se rend compte, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, le coût de l'énergie n'a pas eu encore beaucoup de répercussions sur le prix des autres biens, mais ça va venir. Là. Je pense que c'est la semaine dernière qu'on en parlait. Le prix de l'essence ou du pétrole, ça affecte notamment l'alimentation directement par le coût de l'essence, mais également ça prend du gaz naturel, là, puis le prix a augmenté du gaz naturel pour fabriquer de l'engrais. Il y a certains produits alimentaires qui sont transportés soit par bateau ou tout ça, le coût du transport va augmenter. Donc tout ça, ça fait qu'on s'attend à ce que les prix de l'alimentation augmentent dans le futur, mais on le voit pas encore. Là. L'inflation sur la composante alimentation était de 4% depuis un an. Au mois précédent, c'était 5,4%. Donc on se rend compte que toute la guerre en Iran puis le prix de l'énergie qui augmente, ça ne s'est pas encore répercuté dans le prix des aliments, mais ça va venir si ça se poursuit. Donc, dans quoi on devrait s'attendre dans un mois, là, les prochains chiffres d'inflation? Bien, probablement que l'essence, ça va baisser un peu, notamment parce que le gouvernement de M. Carney au fédéral a suspendu la taxe d'assises de 10 sous le litre jusqu'à la fin du travail. Donc, on s'attend à ce que le prix de l'essence, dans le meilleur des cas, baisse de 10 sous le litre, peut-être un peu moins, là, mais si cette baisse de taxe est transmise directement au consommateur, on devrait payer 10 sous le litre de moins pour notre essence. Par contre, comme je le mentionnais, l'inflation pour l'alimentation le mois prochain, ça devrait être plus élevé.
Alors, est-ce que cette inflation va avoir un impact sur les taux d'intérêt, Michel?
Ben oui, c'est toujours la prochaine question. On se dit, ben, s'il y a de l'inflation, que va faire la Banque du Canada? Est-ce qu'elle va augmenter son taux directeur ou pas? La prochaine décision, c'est mercredi prochain, le 29 avril. D'une part, l'économie canadienne, à cause des tarifs depuis plus d'un an, puis maintenant le coût de l'énergie, ça met un frein à notre économie, puis l'économie a ralenti, puis on le voit dans les chiffres de chômage et de croissance. Là, la croissance est plus faible, le chômage un peu plus élevé. Mais d'autre part, le prix de l'énergie affecte l'inflation, donc l'inflation augmente. La Banque du Canada, son mandat, c'est de limiter l'inflation dans une fourchette de 1 à 3 % puis idéalement autour de 2. Là, on est à peu près là. Mais est-ce que l'inflation va augmenter plus avec la guerre qui se poursuit, le prix du pétrole qui reste élevé? Ça va être à suivre. On a l'impression que la banque va être prudente. Là, l'économie ralentit, mais elle ne baissera pas son taux. Donc, on pense qu'elle va garder le même taux qui est à 2,25% en ce moment. Mais c'est à suivre mercredi prochain, ben, dans 8 jours, le 29 avril.
Bon, on a plein de sagas à suivre.
C'est épouvantable.
Comme celle de Poste Canada, là, vous vouliez nous en parler, une transformation qui n'est pas nécessairement simple.
Oui, c'est ça. Poste Canada, ben, on a tous été affectés, ou en tout cas, on a entendu parler du conflit de travail. Là, ça dure depuis septembre dernier. Puis les employés postaux ont décidé d'aller en grève. Puis à ce moment-là, ça faisait 20 mois qu'ils étaient sans contrat de travail. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe, là. Ce qui est au cœur du litige, c'est la rémunération. Bon, ça l'est souvent. Mais aussi, une composante importante, c'est la restructuration du service postal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette restructuration? Bien, Les Postes Canada, c'est pas facile depuis plusieurs années pour Postes Canada. D'une part, il y a une diminution marquée des lettres mises à la poste. Vous avez, on a juste à penser au temps des fêtes là, qui est passé, mais on poste beaucoup moins de cartes de Noël qu'on le faisait avant, là, il y a peut-être 15 ou 20 ans. Là. Donc,
ah oui, quand on en soit une, là, c'est comme un miracle.
Exactement. Avant, le dessus de la cheminée était couvert de cartes postales.
Ouais.
Maintenant, quand on a une, comme vous dites, ça décore. Et puis, aussi, on reçoit beaucoup de factures maintenant qui sont en ligne. Là. Pensez à vos comptes de carte de crédit, puis tout ça. Souvent, on reçoit ça par Hydro-Québec, on reçoit ça par courriel. Donc, ça aussi, on reçoit moins de postes. Et puis, sur le marché des colis, parce que Postes Canada ne fait pas que livrer des lettres, on livre aussi des colis, mais la concurrence est très forte. Là, le privé est très présent. On peut penser à des compagnies comme Purolator, FedEx, là, qui livrent des colis.
UPS.
UPS, exactement.
Etc. Ouais.
C'est ça. À chaque fois qu'on commande, si on commande quelque chose en ligne, bien, souvent, ce n'est pas Postes Canada qui nous apporte notre colis, mais une de ces compagnies. Tout ça, ça affecte la rentabilité de Postes Canada. Là, l'an dernier, c'est pour ça que je vous en parlais, on vient d'annoncer des pertes pour l'année 2025 de 1,57 milliard.
Ouais, c'est
énorme.
Ah, ouais.
En 2024, c'est 841 millions. Bon, peut-être que la grève a un peu affecté, mais quand même, il y a une tendance lourde. Là. Depuis 2018, 5 milliards de pertes, ça semble s'accélérer. Là. La situation est clairement intenable. On peut pas garder ça.
On court vers la faillite. Là.
C'est ça. Alors, que faire Postes Canada? Mais là, ils veulent avoir recours de plus en plus aux boîtes aux lettres communautaires plutôt que livrer les lettres de porte à porte, avoir des boîtes aux lettres communautaires. Les nouveaux développements, en général, ce sont ces boîtes aux lettres-là qu'on nous met. Là. On veut fermer certains bureaux de poste. Bon, là, il y a déjà en jeu aussi, si on ferme des bureaux de poste, quel va être l'impact sur les régions? Les régions, la particularité des régions, justement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vit là, mais on a quand même un bureau de poste, il faut le payer. Si on l'enlève, comment vont-ils recevoir leur courrier? Donc, vous voyez un peu,
On pense aux facteurs aussi, aux facteurs, aux factrices?
Bien, c'est ça. Là, l'autre impact, c'est sur les travailleurs de la poste. Donc, et puis c'est quand je parlais tout à l'heure que la restructuration du travail, mais ça, c'est qui était un des enjeux du conflit de travail, bien justement, il y a un impact sur les travailleurs. Mais en même temps, est-ce qu'on peut soutenir là, des pertes de plus d'un milliard par année? Parce que ce 1 milliard-là, c'est le gouvernement fédéral qui les comble, là, ces pertes-là. Et donc, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on n'utilise pas pour d'autres choses là, au gouvernement. Je voulais, si on a un petit peu de temps, juste faire
oui, part, on en a.
Parfait. Une expérience au Danemark. Au Danemark, ils ont un peu comme je pense la plupart des pays dans le monde, là, le courrier diminue. Et puis, ils ont décidé le 31 décembre dernier d'abolir complètement le service postal public pour les lettres. Donc, il n'y a plus de lettres qui sont livrées aux portes. La compagnie d'État qui s'appelle Poste Nord va se concentrer seulement sur les colis où il y a une concurrence, donc elle va faire concurrence au secteur privé. Et puis là, ce sont des distributeurs privés qui prennent la relève pour les lettres. Donc, ça serait intéressant de voir un peu là, comment ça va. Probablement que le courrier par le privé est livré moins souvent. Là, c'est pas à tous les jours parce que sinon... Ils ne rentreraient pas dans leur argent. Si le gouvernement ne faisait pas d'argent, ils n'en font pas non plus s'ils donnent exactement le même service. Et puis, une forte décroissance là, ou déclin du courrier sur lettre sur 20 ans au Danemark de 90 %, alors qu'au Canada, il y en a eu 60 %. Je pense qu'une des raisons, c'est que le prix d'une lettre avant l'abolition du service, au Danemark, c'était 6,35 alors qu'au Canada, on est à peu près à 1,44. Donc, avec le prix du thème qui était beaucoup plus élevé, ben, les gens ont décidé de s'organiser autrement. Puis ce qui arrive au Danemark, c'est que la société est très numérisée. Alors, tous les chèques gouvernementaux, tous les formulaires à vie, c'est envoyé par voie numérique, là, par courriel. Et on a des applications pour les permis de conduire, les cartes d'assurance maladie. Donc, tout se fait, si vous voulez, de façon numérique. Alors, ça a été beaucoup plus facile de fermer le service postal des lettres, là, parce qu'il y en avait... T'sais, le courriel a diminué de 90%, il n'y a presque plus rien qui était posté là, en termes de lettres. Donc, ça a été assez facile là, de fermer parce que justement, la société était très numérisée. Donc, au Canada, est-ce que c'est la voie qu'on va suivre? Ça coûte cher les postes. Là, je comprends qu'il y a les travailleurs postaux qui vont être affectés, mais indirectement, tous les consommateurs canadiens le sont également là, quand le gouvernement fédéral doit éponger les déficits.
Oui, mais chose certaine, il y a certaines décisions qui ne passeront pas comme une lettre à la poste.
Non, exactement. Là, d'une part, il y a les travailleurs, puis il y en a d'autres qui sont très attachés à leur service postal. Alors, c'est un sujet qui est sensible politiquement. Donc, ça ne sera pas juste l'économique qui va dicter les décisions, je pense, dans ce cas-ci.
Merci, Michel. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Qui partent sans déjeuner, d'autres qui font rien sans leur TV, d'autres que c'est le sexe avant de manger, chacun son style, moi c'est moins gay. Ma journée peut pas commencer tant que le facteur n'est pas passé, du temps qui passait vers 8 heures, tout allait bien, c'était le bonheur. Mais maintenant qu'il passe vers 3 heures, c'est bien dommage, me v'là chômeur. Ma journée peut pas commencer tant que le facteur n'est pas passé. 20 fois, 100 fois dans l'escalier, j'descends voir la boîte à courrier. Quand à 4 heures j'ai rien trouvé, j'dis ça se peut pas, il s'est trompé. C'est comme s'il n'y avait pas de journée, vu que le facteur n'est pas passé. Même que je suis rendu que je m'abonne à des revues que je trouve pas bonnes, les plus gros comptes, je trouve ça le fun. Envoyez-en Simpson Eaton. Ma journée peut pas commencer tant que le facteur n'est pas passé. C'est un peu comme si j'attendais une lettre qui ne m'arrive jamais, une lettre de quelqu'un qui m'aimerait, une lettre de quelqu'un qui m'aimerait. Mes journées pourraient commencer avant que le facteur soit passé. Sans déjeuner, d'autres qui font rien sans leur TV, d'autres que c'est le sexe avant de manger, chacun son style, moi c'est moins gay. Ma journée peut pas commencer tant que le facteur n'est pas passé.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je donne un DM, la dopamine dans les veines, je suis comme Call Me Mr. Vain. J'dors kill Bill à chaque réveil. Les requins veulent guette mon ADN. Puis j'reste chill pure comme Kurt Cobain. J'ai dit tant que tu m'entertaines. Je sais, j'ai plus peur, baby, le gras sous mon pied. Na 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 na. J'avance sur la green light, j'essaie. J'get pas d'étiquette. Si j'ai un fuck, j't'aime la mairesse. Boy, j'ai ben du backup sur ma banquette. J'ride juste avec les gros G du Québec. Le temps est précieux, mes skills sont pushés. J'suis en bonne position à battre les déchets. J'veux battre les singles, j'get le cachet. Fais mon ramène, pis oublie pas sa chaîne.
On allait un peu vite, ma petite madame.
C'est le même film, c'est le même feel. Comme on drive in quand j'check it. J'avance sur la green light, je sais. Mon histoire de tempête, je fais. J'avance sur la green light.
Lance Nerbonne et sa chanson « Green Light ».
Tiré de son plus récent album, son cinquième album en carrière intitulé « Next ». Endetté à cause de sa mère, il fait faillite à 20 ans. C'est sur le site de Radio-Canada. Depuis des années, une femme du Nouveau-Brunswick multiplie les stratagèmes afin de soutirer de l'argent à ceux qui croisent sa route. La facture a appris que l'une de ses dernières victimes est son propre fils lourdement handicapé. C'est dans une chambre d'hôtel de Moncton au Nouveau-Brunswick que nous avons donné rendez-vous à Miguel Duguay. Le jeune homme de 21 ans est allumé, fait preuve d'une maturité et d'une résilience hors du commun et a un sens de l'humour réjouissant. Atteint d'une maladie rare, l'amyotrophie spinale, Miguel est handicapé. Ses mains, qui bougent à peine, sont cramponnées à la manette de son fauteuil roulant qu'il arrive néanmoins à diriger. Il s'agit du seul mouvement que son corps atrophié lui permet. Même son souffle est limité et il ne peut vivre sans son respirateur. Aujourd'hui, Miguel doit faire face à une nouvelle épreuve. Sa mère, qui était censée le protéger, l'a couvert de dettes et mené à la faillite. Sa mère, c'est Nadia Duguay, un nom qui circule dans la région de Moncton et pas pour de bonnes raisons. En effet, depuis des années, elle fait preuve d'imagination pour flouer les gens. Dans un reportage de La Facture diffusé en 2022, plusieurs personnes la dénonçaient. Elle encaissait l'argent de clients rencontrés par le biais d'un groupe Facebook de vente d'articles à bas prix, sans livrer la marchandise. Un ex-petit ami qui s'était retrouvé avec une dette de 22 000 $ après leur brève relation, ainsi qu'un travailleur de soutien qui s'était occupé de son fils, y racontait également comment elle les avait arnaqués. Les agissements de Nadia Duguay ont mené à la création d'un groupe Facebook L'arnaqueuse qui a gaspillé votre argent, NB, qui compte plus de 600 membres. Elle a eu bien du fun avec mes chèques. En vieillissant, Miguel a compris que sa mère a tiré avantage de sa situation médicale. Elle a profité de ma situation pour sûr. Je pense que quand elle a réalisé que j'étais de même, elle a vu l'opportunité. Ça lui a donné plein d'occasions pour frauder, déplore-t-il. En effet, le fait qu'elle soit la mère d'un enfant handicapé inspirait confiance aux gens et lui permettait d'attirer la compassion ainsi que les dons. C'est en cherchant à comprendre ses finances et à en prendre le contrôle que le jeune homme a commencé à avoir des doutes. Je trouvais ça vraiment suspicieux qu'elle ne veuille pas me donner accès à mon compte de banque. En épluchant ses relevés bancaires, le jeune homme a constaté avec horreur que sa mère avait détourné l'argent de ses prestations gouvernementales. Au lieu de les placer dans un compte d'épargne, comme elle devait le faire, Nadia Duguay, sa propre mère, s'en est plutôt servie pour s'offrir un beau train de vie. Coiffure, manicure, produits de beauté, séjour à l'hôtel, repas au restaurant, toilettage pour ses chiens et assurance animale. On trouve même dans les relevés des prélèvements mensuels pour des abonnements au gym, ce qui fait rire Miguel. Ah oui, je ne skip jamais le leg day, c'est-à-dire l'entraînement des jambes. Il a aussi découvert que sa mère avait effectué de nombreux retraits et virements pour des montants importants sans pouvoir comprendre à quoi ils ont servi. La situation a pris une tournure encore plus inquiétante lorsqu'il a commencé à recevoir des appels d'agences de recouvrement. Il a alors appris que sa mère avait ouvert divers comptes à son nom auprès de Bell Elliott et d'Energy NB, dont elle n'a jamais payé les factures, et de Money Mart pour des prêts qu'elle n'a jamais remboursés. Il a évité de justesse une coupure de courant alors qu'il dépend de son respirateur qui doit être régulièrement branché pour être rechargé, une situation qui aurait pu s'avérer catastrophique. Miguel s'est retrouvé avec des dettes accumulées de près de 10 000 $, une somme qu'il ne pouvait pas payer avec pour seule source de revenus ses prestations gouvernementales de 1 139 $ par mois. Il n'a eu d'autre choix que de déclarer faillite. Même son véhicule adapté a été saisi. Miguel a déménagé seul dans un appartement adapté à sa situation médicale et il a coupé tout contact avec sa mère. Il a également porté plainte contre elle à la Gendarmerie royale du Canada, le seul corps de police à Moncton. Joël Guimond regrette amèrement d'avoir croisé la route de Nadia Duguay, qui s'était présentée à lui sous une fausse identité. Elle m'avait dit qu'elle avait plusieurs maisons à Moncton qu'elle louait. C'était une businesswoman. C'est son nom, c'est sous le nom de Flora Demes qu'elle l'a convaincue d'investir dans l'achat d'un bar de l'endroit, une arnaque qui lui a fait perdre 9 400 $. Elle est vraiment convaincante. La façon dont elle dit les choses, la façon dont elle fait les choses, elle est vraiment professionnelle avec ses mots, se désole M. Guimond. Il s'est rendu dans un poste de la GRC pour porter plainte, mais la réponse des policiers l'a surpris. Ils lui ont expliqué que, puisqu'il avait volontairement donné l'argent à Nadia Duguay, il ne pouvait rien faire et que son dossier relevait au domaine civil et non du criminel. « Tant qu'à moi, ce n'est pas civil. Elle fait ça pour voler le monde », déplore Joël Guimond. Ce dernier a donc suivi la recommandation de la GRC et a poursuivi Nadia Duguay à la Cour des petites créances. Il y a obtenu un jugement par défaut, puisqu'elle ne s'est pas présentée à l'audience. Même si le jugement ordonne à Mme Duguay de lui rembourser les 9 400 $ qu'elle lui a soutirés, il craint de ne jamais revoir son argent. Elle n'a rien. Elle n'a rien à son nom. Elle a changé d'adresse plusieurs fois. Ça fait que c'est dur, mais je vais la trouver, espère-t-il. Un reportage de Catherine Tremblay et Jean-François Vizina. Ce sujet sera présenté à l'émission La Facture, diffusée sur ICI Télé. C'est ce soir, à compter de 19h30. Vous écoutez au quotidien, c'est Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11h. À venir dans la prochaine demi-heure, une rencontre avec la comédienne Rebecca Vachon qui joue dans la pièce de théâtre Le Testament des célébrités qui prend l'affiche aujourd'hui même à la salle Jean-Claude Germain. Et on aura aussi Anne-Marie Aubin pour sa chronique livre. Elle va nous parler notamment de cadeaux de Noël en novembre par Stéphane Laporte, illustré par Jacques Goldstein aux éditions La Bagnole qu'elle a beaucoup aimé. Restez avec nous.
Avec la participation de Vues et Voix.
Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Et on s'en va joindre en Gaspésie, Anne-Marie Aubin. Est-ce qu'il fait beau chez vous, Anne-Marie?
Oui, beau soleil, mais pas chaud encore.
Bon, comme ici, dans la grande région métropolitaine. Parlons donc d'un cadeau de Noël en novembre, période où il fait pas trop chaud. Un livre de Stéphane Laporte, illustré par Jacques Goldstein.
Oui, paru chez La Bagnole en 2024 et qui est finaliste au prix des libraires. C'est un album que j'ai choisi parce qu'il est question de hockey dans ce livre-là, de la passion de Stéphane Laporte pour le hockey depuis toujours. Stéphane Laporte, tout le monde le connaît, c'est un auteur, concepteur qui est chroniqueur à La Presse, qu'on entend souvent à Radio-Canada, qui a déjà plusieurs publications à son actif et qui a créé cet album-là en pensant à un souvenir qui a été très marquant, qui a changé complètement sa vie. C'est-à-dire que depuis qu'il était tout petit, il rêvait d'avoir des patins parce qu'il écoutait le hockey, puis il avait dans sa chambre, évidemment, les affiches de Jean Béliveau, puis bon, les joueurs de son époque à lui. Il est né en 63, donc le récit se passe...
Non, il est né en 61.
61, donc s'il a 7 ans, donc c'est 68 à peu près. Bon. Alors, la fin des années 60. Et puis là, il fait beaucoup de jeux de mots dans le texte. Ça commence en disant, je cite, « Mon père est comptable. Je ne sais pas trop ce que ça fait, un comptable. Je ne sais pas trop ce que ça compte. Jean Béliveau est compteur. Je sais très bien ce que ça fait, un compteur. Ça compte des buts. » Alors, il joue sur le mot compte, compteur. Et puis bon, ben, il nous fait un beau portrait de son enfance, pas si facile à Montréal, où lui, il rêve d'avoir des patins, et il les recevra en novembre parce que sa mère, lui, offre un cadeau en faisant croire que c'est le Père Noël, mais c'est pas Noël, alors il les ouvre, il est tout content. Et puis évidemment, à cause d'un handicap qu'il a, il pourra jamais réussir à patiner, il va pleurer, il va essayer, recommencer, tomber. Et si sa mère lui a donné en novembre, c'est pour pas que son jour de Noël soit triste,
oh,
parce qu'à Noël, il y aura autre chose. Alors là, ben, comme il est un peu triste de tout ça, ben, il va aller à son bureau et il dit « Je me mets à écrire. C'est toujours ce que je fais quand je suis mêlée. Je raconte dans mon journal cette drôle de journée. Et je commence à comprendre. » Et là, il comprend que c'est sa mère qui a tout fait ça par amour pour lui. Puis il dit « Il faut vouloir ce qu'on peut, pas ce que notre voisin peut. » Puis il dit « Écrire, au fond, c'est ressentir. Écrire, c'est rêver. » Alors, pour Noël, il dit, je vais demander des crayons, des cahiers. Et c'est là qu'il va commencer à faire des chroniques sportives. Et il va raconter ce que les Canadiens font, les buts, il découpe le journal. Et c'est le début pour lui d'une chronique, finalement, qu'il fait à 7 ans et qui va, bon, poursuivre. Et les illustrations de Jacques Goldstein sont superbes, pleines de mouvements, comme un petit garçon vivant de 7 ans, mais aussi avec des références artistiques, sportives. On reconnaît très bien Jean Béliveau, par exemple, dans l'écran de la télévision. On reconnaît René Lecavalier. Bon, bref, une époque. Puis des belles images poétiques par moments aussi, parce qu'on voit le décor de la ville de Montréal avec des bleus de nuit, puis des décors hivernales avec toujours des petits chats partout. C'est vraiment très beau. Ils ont une belle complicité ensemble. Et puis, ça crée un album que je suggérerais pour les 5 ans et plus, qui finalement nous fait comprendre que dans la vie, parfois, il se pose des problèmes, mais cette façon de voir chez Stéphane Laporte est un exemple de résilience excellent qui va finalement, comme il dit, changer sa vie, puis là, va devenir un chroniqueur, il va se mettre à écrire et il va trouver une façon d'aimer le hockey pareil sans le pratiquer comme son idole Jean Béliveau. Voilà,
donc belle histoire. Résilience et d'une mère bienveillante et très, très intelligente. On poursuit avec 11 brefs essais sur le sport. Allez au bat avec nos idées. C'est un collectif sous la direction de Philippe Chagnon et Christine Gosselin, publié aux éditions Somme Toute.
Oui, effectivement, c'est deux personnes. Bon, Christine Gosselin, qui a une espèce de page web pour les plateformes anglophones de la Ligue nationale de hockey. Donc, on s'en sort pas, on est encore au hockey. Elle signe la préface à la manière d'une chronique de sport. Et Philippe Chagnon, lui, c'est plutôt un poète, un romancier, qui dit que lui, il écoute les matchs de hockey un livre à la main. Donc, il est beaucoup moins dans l'action. Et parmi les autrices et les auteurs choisis, ben, il y a des gens connus comme Jean-Philippe Plot, mais il y a aussi des gens moins connus, même des gens qui n'ont jamais écrit et que c'est leur première expérience. Certains vivent en région, d'autres en ville. Et puis, chacun raconte quelque chose de vécu, un récit personnel en lien avec le sport et la littérature. L'idée, c'était de comparer ces deux choses qu'on met toujours comme dichotomiques, mais c'est pas vrai, là. Alors, donc, c'est ça le but du recueil. C'est un essai sur le sport et la littérature. Ça fait partie d'une collection qui s'appelle 11 brefs essais sur quelque chose. Alors, dans ce livre, évidemment, il est question support de l'enfance beaucoup, de l'inclusion, des classes sociales, parce que tout le monde n'a pas accès au sport de la même façon, de l'éducation, de la discipline que demande l'écriture comme le sport, des performances qu'on peut faire et de la peur de l'échec, le stress, l'équipe avec qui on travaille. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on ne soupçonne pas que le sport, c'est un peu individuel pour s'entraîner, pour être mettre en forme. Et puis celui qui écrit fait aussi beaucoup un travail individuel, seul, chez lui, avant d'arriver dans la vie publique. Puis comme une autrice disait, parfois, ça prend 20 ans à écrire un livre que les gens vont lire en 2 heures. Donc, c'est pas proportionnel. Puis celui qui s'entraîne pour glisser, pour faire du ski, va se pratiquer pendant des années, puis sa descente va faire 2 minutes.
Ouais.
Alors, c'est pas égal au temps qu'on investit la performance qui va venir avec. Donc, ces 11 récits-là sont brefs, sont variés, sont intéressants, certains sont touchants, puis abordent des sujets parfois quand même très intimes. Alors, c'est intéressant de voir que la fonction que ces gens-là occupe, comme par exemple Jean-Philippe Plot, qui est socialiste, ben, il fait un texte qui s'appelle Victor et Hugo. C'est pas pour rien.
Qui est socialiste ou sociologue?
J'ai dit quoi?
Socialiste.
Ah non, excusez-moi. Sociologue, excusez-moi. Bon, lapsus. Et Victor et Hugo, ben, ça fait référence à Victor Hugo, bien sûr, mais c'est deux enfants qui viennent de milieux très différents. Ils habitent pas très loin. Ils vont à l'école ensemble. Un est favorisé, l'autre pas du tout. Et ensemble, ils veulent jouer au soccer. Puis bon, ben, il va avoir un conflit, une manière de dire, parce qu'il y en a que malheureusement, le papa ne peut pas payer. Et un jour, il doit remplacer à pied levé comme ça. On va lui prêter des vêtements, puis il va s'avérer qu'il est très bon. Donc, c'est un peu comme un conte, une fable, qui montre qu'ensemble, on peut peut-être pallier à ces différences de classe sociale. Il y a Jade Côté-Goulet qui, elle, parle de la course à pied, de la performance et l'acceptation du corps. Philippe Chagnon, parle d'un cours qu'il a échoué 2 fois qui s'appelle « Mise en forme et relaxation ». C'est incroyable, hein? Il a réussi à faire passer son cours en parlant au professeur d'éducation physique. Puis, avec une partie de badminton, il va réussir à passer son cours, mais il détestait les cours d'éducation physique.
Comme bien des jeunes.
Oui. Et Guillaume Paquet, qui vient d'Amqui, raconte son enfance, et c'est très touchant, lui, où il vivait. Il y avait des parents qui étaient d'un milieu défavorisé, puis il y avait de la violence chez lui. Alors, il est tout petit, là, dans son lit, et il écoute la radio, et il dit que pour éteindre ces bruits de violence autour de lui, il écoute Roger Brulotte et puis Jacques Doucet, qui le calment. Et puis plus tard dans sa vie, il raconte que devenu adulte, il y a certains problèmes dans sa vie de couple, dans sa vie familiale. Et justement, il est couché sur son divan, puis il entend la voix de Roger Brulotte et Jacques Doucet. Donc, c'est très beau, c'est très touchant, c'est très personnel. Et il voit comment l'écriture va venir, lui, le sauver jusqu'à un certain point. Et il y a Mélanie Noël, que je connaissais pas, qui est une autrice qui, elle, jeune, rêvait de devenir une grande skieuse et faire les Olympiques. Alors, elle s'entraîne, elle se prive dans son alimentation, elle se prive de sortir. Puis elle explique que le ski alpin, c'est un sport qui est individuel, qui te demande à toi, évidemment, de performer seul, mais qui se vit en même temps en équipe, parce que tu voyages toujours en autobus avec les autres, vous avez des manteaux identiques dans les compétitions, vous avez le même coach qui vous suit. Et ils se créent, veut pas, une compétition même au cœur des autres filles qui font du ski avec toi. Puis elle dit que la littérature aussi, c'est un art solitaire qui se vit tout seul, mais qui va se lire dans la communauté, qui va être critiqué par la communauté. Puis elle dit que ça prend une force de caractère pour encaisser la critique.
Ouais.
Chez les médias, par exemple, le rejet dans les maisons d'édition, les refus, par exemple, et l'exclusion de certains événements, parce qu'il y a des gens qu'effectivement, on ne voit jamais dans les tables rondes, dans les événements, on ne sait pas trop pourquoi.
Est-ce que tous les textes sont intéressants?
Oui, moi, vraiment variés. Moi, j'ai appris des choses, comme elle raconte une affaire qui m'a bouleversée. Elle dit que certaines athlètes de ski, qui sont de haut niveau, qui veulent réussir, elle dit, elle tombait enceinte pour ensuite se faire avorter afin de profiter de la montée hormonale pouvant augmenter la performance. Elle dit qu'elle ne ferait jamais ça, là. Mais elle, si elle le dit, c'est qu'il y en a qui le font. Et ça, je l'ignorais. Et je me suis dit, voilà, c'est plus du sport.
J'ai jamais entendu parler de ça. Épouvantable.
C'est épouvantable. Ça s'appelle jouer avec la vie, là. Alors, le but de ça, c'est vraiment de nous faire voir le sport de différentes façons. Il y en a pour qui c'est une passion. Il y en a qui conjuguent très bien les deux métiers. Il y en a, au contraire, que c'était difficile de faire le choix à un moment donné parce que le sport nous est toujours imposé à l'école. Hein. Puis, au bout de tout ça, on se rend compte qu'il y a des préjugés sur les sportifs et la lecture, les intellectuels, la lunette, là, qui ne sont pas bons pour faire rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Et on se rend compte que la création littéraire, ben, n'est pas incompatible puisque le sujet du sport a apporté chez ces gens-là, je sais pas moi, l'idée de créer ces textes-là, ça les a inspirés. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose à faire. Et il y a des gens qui, c'est leur première expérience d'écriture. C'est que les deux, les deux directeurs de cette collection, de ce titre-là, Christine Gosselin et Philippe Chagnon, se sont consultés. Puis elle était plus dans l'esprit sportif. Lui était plus dans l'esprit littéraire. Et ensemble, ils ont encadré ces gens-là pour que le recueil soit intéressant.
Un beau mélange.
Oui, puis j'avais, je sais pas si j'ai dit, mais il y a le sous-titre qui c'est aller au bat avec nos
filles.
Ça veut dire aussi aller au front, quitte à recevoir des critiques après. Alors, pour les gens qui sont sceptiques, là, pour les gens qui aiment beaucoup le sport, ben, je trouve que c'est deux lectures bien intéressantes ces jours-ci.
Merci beaucoup, Anne-Marie. J'ai envie de vous dire go Habs, go. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
D'accord, merci. Au revoir.
C'était Fleur de Flore Laurentienne.
Merci, Mathieu. Alors, première ce soir, première devant public, la première médiatique a lieu dans quelques jours de la pièce de théâtre Le Testament des célébrités présentée à la salle Jean-Claude Germain au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Et ça se passe donc à partir du 21 avril et ce jusqu'au 9 mai, une pièce de John Lachlan Stewart, mise en scène par Olivier Morin, qui signe aussi la traduction. Et la pièce met en vedette Gabriel Favreau, Chloé Germantier et Rebecca Vachon, qui est avec nous, même si c'est une première ce soir. Bonjour, Rebecca.
Bonjour.
Ça me fait très plaisir de vous rencontrer, d'autant plus que j'ai l'impression de vous connaître, parce que de ce temps-ci, je regarde en rafale Le retour d'Anna Brodeur et vous jouez le rôle de Mia, la pas trop sympathique Mia, mais on s'attache quand même à elle.
Oui.
Alors, on vous a vu aussi dans Les Pays d'en haut, dans Indéfendable, au théâtre, notamment dans Les Trois Sœurs au TNM. Vous êtes diplômée en interprétation de l'École nationale du théâtre du Canada depuis 10 ans.
Oui.
10 ans cette année?
Exactement,
oui. Oui. Alors, vous êtes une comédienne qui aimait autant la télévision, le théâtre que le cinéma?
Oui, vraiment. C'est le fait de pouvoir jouer...
Oui,
ouais, c'est ça exactement, de pouvoir jouer des beaux personnages comme Mia, comme le personnage dans le Testament des célébrités. C'est ça qui m'attire. Puis après ça, les différents médiums, que ce soit la télé, le théâtre ou le cinéma, c'est juste une manière différente de communiquer, je pense.
Oui.
Ouais, d'entrer en contact avec.
Est-ce que vous avez joué tout de suite en sortant de l'école?
Oui, mais surtout au théâtre.
OK.
Ouais.
Vous avez eu cette chance-là.
Oui, vraiment.
Ouais, d'avoir déjà des contrats, parce que c'est pas nécessairement évident, là.
Non, c'est ça. J'ai été vraiment choyée. En fait, à l'École nationale, j'ai rencontré des metteurs en scène puis des metteuses en scène avec qui j'ai vraiment aimé travailler. Puis j'ai eu la chance...
Et vice-versa, j'imagine.
Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça l'a comme débuté là, ces collaborations-là. Puis après ça, quand j'ai terminé l'école, ben j'ai été approchée par René-Richard Cyr pour jouer dans Caligula. Puis après ça... par Catherine Vidal pour jouer dans L'Idiot. Fait que c'était...
Et the rest is history.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, Testament des célébrités nous emmène où? Qu'est-ce que ça raconte, Rebecca Vachon?
Bien, en fait, c'est un peu basé sur les franchises de films comme Harry Potter ou t'sais, toutes les Marvel.
Ouais,
donc, c'est un peu une réflexion sur les enfants vedettes. Ces enfants-là qui commencent d'un... très, très jeunes, dans un milieu qui n'est pas fait pour eux, puis qui reçoivent énormément d'attention du public, puis qui deviennent un peu plus le personnage qu'eux-mêmes. Donc, dans un moment de développement, ils se transforment, puis il y a comme une réflexion sur le milieu, sur comment est-ce que ça l'affecte le développement des enfants.
Ils se connaissent pas vraiment.
Exactement,
là.
C'est ça. Au moment où ils sont en train de se découvrir puis savoir qui est-ce qu'ils sont puis tout ça, ils ont leur personnage qui est plus important qu'eux. Donc, il y a comme une réflexion sur l'effacement de soi, sur le fait de pour être... en fait, c'est un peu une réflexion sur les masques qu'on porte, sur le persona. C'est le fait d'avoir un masque en société, d'être une célébrité, comment est-ce que ça l'affecte juste la compréhension de qui on est, puis notre rapport à l'autre, puis notre rapport à nous-mêmes. Fait que dans ces moments-là de développement d'un enfant...
Je pense à l'acteur qui jouait dans « Maman, j'ai raté l'avion », là.
Oui, exactement. C'est ça. C'est exactement une réflexion sur ces enfants-là qui commencent très tôt.
Qui grandissent dans l'œil du public.
Exactement. Puis que ça affecte complètement leur développement. Fait que ça va faire qu'ils vont avoir des problèmes de consommation.
Souvent. Quand ils sont mal encadrés.
Oui, c'est ça.
Même s'ils sont bien encadrés, parce que c'est complètement déstabilisant là, de connaître une célébrité aussi grande, aussi monstrueuse. Là. Votre personnage à vous, c'est un enfant vedette?
Exactement. Les trois personnages sont des enfants vedettes, un peu comme les trois personnages de Harry Potter. Daniel Radcliffe, Emma Watson, puis... Ben là, j'ai juste Ron Weasley.
Oui.
Mais celui qui jouait... donc les trois. Oui, c'est ça, exactement.
Merci, Mathieu.
Puis, donc, ces trois enfants-là ont grandi dans Harry Potter en jouant Harry, Hermione, Ron. Et donc, nos personnages sont un peu inspirés de ces trois enfants vedettes-là. C'est pas du tout la même histoire.
D'accord.
C'est Grimble Gitch, que ça s'appelle l'univers.
Okay.
C'est l'univers que John a complètement inventé. Mais ça reprend l'idée des trois enfants qui traversent une série qui fait 14 films.
Ouais.
Et donc, ils grandissent un peu justement dans l'œil du public et comment ça les affecte. Fait que c'est des trois enfants vedettes qui reviennent peut-être, je pense, 10 ans ou 15 ans plus tard, quand ils sont rendus adultes. Il y a une bombe qui explose aux Oscars. Toutes les célébrités meurent.
Oh, oh. Et, on en rit, mais c'est pas drôle.
Ben oui et non. C'est ça qui est intéressant avec la pièce, c'est que c'est un peu... c'est tellement absurde qu'il y a beaucoup de rire. Puis c'est un peu... Ouais, c'est à la fois drôle et touchant. Puis on joue avec ça beaucoup dans la pièce. Fait que il y a une bombe qui explose aux Oscars. C'est un peu une absurdité.
Complètement.
Comme idée. Puis là, Leonardo,
en même temps, tout
Brad...
peut arriver, là,
oui,
mais
c'est ça, exactement.
Ça arrive dans la pièce.
Dans la pièce, ça arrive, c'est un peu...
Mais il y a des survivants? Vous trois?
Non.
Vous n'étiez pas là?
Moi, j'étais sortie. Mon personnage était sorti. Puis les deux autres personnages n'étaient pas là parce qu'ils étaient des has-been.
Ah, OK. C'était fini pour eux. Là.
Exactement, c'était fini pour eux. Mais là, comme il n'y a plus de célébrités, ben, il faut avoir des gens pour continuer les franchises. Donc, ils sont ramenés dans le
milieu. On fait appel à vous trois.
Exactement. Pour faire la dernière version, ben, en fait, le dernier film de la série Grimblegitch.
Grimblegitch. Alors, vous appelez comment dans cette pièce?
Moi, mon personnage, c'est Sharky Lafaille.
Alors, on sent qu'ils se sont amusés hein, dans les titres, les noms des personnages.
Ah oui.
Et qu'est-ce que Sharky dégage?
Mon personnage, c'est celle qui a continué dans le milieu. Donc, c'est celle qui est la
Elle s'en est sortie jusqu'à un certain point.
Ben, elle s'en est sortie, mais avec beaucoup de pilules.
Oh, OK.
Une grosse consommation, ça, de stimulants puis de calmants.
Elle n'est pas tellement santé psychologique.
Non. Exactement, c'est ça.
Mais, OK.
Mais elle continue dans le milieu, elle a des contrats puis tout ça. Puis donc, c'est elle qui a le plus d'assurance sur le tournage.
D'accord. Et est-ce qu'elle s'en sert à bon escient de cette assurance-là?
Je pense que les trois personnages sont beaucoup centrés sur leur propre survie, puis sur eux-mêmes.
Mais en même temps, il n'y a plus de compétition là, pour décrocher les rôles.
Non, mais je pense qu'il y a de la compétition entre eux quand même.
Ah oui?
Oui, il y a de la rivalité quand même. Parce que... Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu les travers de chacun des personnages, puis les rivalités ou les non-dits, mais en même temps, il y a aussi, on voit beaucoup aussi leur vulnérabilité, le fait qu'ils ont tellement besoin d'exister, puis d'être aimés, puis d'être vus.
C'est une sorte de manque d'estime de soi parce qu'ils veulent être aimés par le plus grand nombre.
C'est ça.
Mais c'est beaucoup ça aussi. Quand on fait un métier public, on dirait qu'on veut... plus d'amour que le commun des mortels.
Oui, c'est
ça. Pourquoi je me retrouve sur une scène ou devant une caméra? C'est quoi votre but dans la vie aux vedettes, entre guillemets?
Oui, c'est ça. Ben, je pense que ça...
Ou à ceux et celles qui aspirent à l'être.
Oui, ça pose cette question-là.
Ouais.
Puis je pense que ça pose cette question-là sur d'où est-ce que ça vient, ce besoin d'être aimé, d'être validé, d'être reconnu.
Mm-hmm.
Puis à quel point c'est viscéral, puis que ça vient de d'assez loin.
Oui, hein?
Tu sais que c'est comme des...
C'est psychanalytique, là,
ben
comme...
Mais quand même! c'est des manques très profonds, qui sont peut-être pas conscients. Fait que ces trois personnages-là, ils essayent de patauger à travers tout ça, mais il y en a qui sont plus conscients que d'autres par rapport à ces besoins-là.
Mm-hmm.
Puis je pense que cette soif d'être aimé, c'est un peu cette réflexion-là qu'il y a dans le spectacle. Ouais, qu'on...
La fascination aussi pour les célébrités, parce que les célébrités veulent être célèbres pour souvent parce qu'elles sont assoiffées d'amour et elles ont un besoin d'attention presque maladif.
Oui.
Mais pourquoi le public est si fasciné, intéressé, ébloui? J'assiste à des premières et j'invite des amis qui ne sont pas nécessairement dans le milieu. « As-tu vu un tel, une telle? » C'est quoi ça, d'après vous, Rebecca Vachon?
C'est une très bonne question. Pour vrai, moi, ce que je pense, c'est qu'on a besoin... Mais ça, c'est vraiment une réflexion un peu métaphysique, là, mais je pense que...
On aime ça.
Je pense que les êtres humains, on a un besoin d'adorer.
Ah oui?
Je pense qu'on a besoin d'adorer. Et donc, si on n'adore pas Dieu ou si on adore
admirer
pas...
Admirer ou adorer.
Oui, c'est ça, exactement. Si oui. on n'a pas cette révérence-là par rapport à l'humanité oui. ou la Terre ou un être...
Quelconque.
Exactement, c'est ça. Ben, je pense qu'on va aller chercher cette révérence-là puis cette adoration-là par rapport à d'autres êtres humains. Fait que c'est comme un transfert. Je pense qu'on a besoin de, d'être dans cette... en anglais, on dit un « awe », tu sais, un émerveillement.
Y a-t-il quelque chose de sain, de malsain, un mélange des deux, hein?
Mais je pense que ça peut, dépend.
On peut franchir des pas.
Oui, c'est ça. Je pense que ça peut être, si c'est canalisé, ça peut être super intéressant mm-hmm. puis super beau. Je pense que si on reconnaît que ça existe dans ouais. l'humanité, d'avoir ce désir d'être émerveillé puis impressionné. Mais après ça, si c'est canalisé vers d'autres êtres humains, je pense que ça peut être questionnable, tu sais. À quel point, justement, on... Mais en tout cas, je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Mais c'est intéressant. Moi, je suis là pour poser les questions,
oh oui, c'est
Rebecca.
Vrai.
Mais vous avez choisi de faire ce métier-là pour être célèbre?
Non.
je m'en doutais bien.
Ah oui.
Mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier-là?
Mais en fait, je dis non, mais peut-être que quand j'étais petite,
ouais,
oui.
Inconsciemment.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
comme...
oui, oui.
Peut-être...
J'ai le goût d'être applaudie, j'ai le goût ouais, de faire un spectacle devant
c'est
un public.
Ça. Probablement que quand j'étais petite... Il y avait ce désir-là d'être vu, puis aimé, puis reconnu.
Oui.
Mais je pense que ça s'est transformé, puis assaini avec le temps. Je pense pas que c'est ça que je recherche maintenant. Mais probablement que les premières... Mais en même temps, il y avait vraiment un amour du théâtre, un amour de jouer des personnages,
oui.
de pouvoir... je pense que j'avais une très grosse énergie, puis beaucoup d'émotions. Puis le théâtre m'avait comme aidé à pouvoir exprimer ça, avoir un terrain où je pouvais être des
oui.
choses que je pouvais pas être dans la vie.
Exprimer le trop plein.
Exactement.
Oui. Ah, il faut aller voir le testament. Vous êtes
oui.
d'accord avec ça, hein? Testament des célébrités.
Oui.
C'est le titre et c'est mis en scène par Olivier Morin et une pièce écrite par John Lachlan. Stuart, j'en parlais avec Rebecca Vachon. Ça a été un plaisir de vous parler, Rebecca. Et je rappelle que la pièce est présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui, dans la petite salle intime. Ça, on aime ça. On
oui.
est proche des comédiens, surtout quand on est admiratif de célébrités.
Ah, mais pour vrai,
à la salle Jean-Claude Germain. Oui, pour vrai.
Ouais,
vous aimez ça, vous aussi, jouer
oui,
près du
public.
Oui,
c'est génial d'être près du public. Cette rencontre-là est vraiment super, puis ça demande tellement de précision. Cette pièce-là, je vous encourage à venir.
Alors, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 9 mai. Merci beaucoup, Rebecca Vachon. Le mot de Cambronne.
Merci.
Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain. Passez une belle journée. Merci, Mathieu.